Bon, bonjour, merci d'être là et merci de l'invitation. J'essaie dans ces deux demi-journées d'intervention de ne pas être trop schizophrène et de relier mes deux casquettes. D'un côté, je suis enseignant-chercheur, de l'autre côté, je suis compositeur et j'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de divorce entre ma pratique d'artiste et ma pratique de chercheur. Pour moi, il y a une continuité entre les deux. Et depuis les années 90, je travaille sur les questions du temps réel, du jeu musical en temps réel, à la fois du point de vue théorique et historique, et du point de vue pratique. Je fais ça régulièrement. Encore la semaine dernière, j'avais un concert. Donc, c'est à ce double titre-là que je viens vous parler. J'ai été très intéressé de regarder le site de votre formation, de ce post-diplôme et tout ça. Ça m'intéresse beaucoup, ce genre de formation-là, justement, qui est hybride, qui cherche à trouver des chemins différents pour vous. Je ne vous connais pas bien encore. Je vais avoir besoin de votre aide pour m'aider à calibrer mon propos. Je peux être très technique, je peux être plus général, je peux être plus esthétique, Tout ça est possible. J'offre le service complet, mais... Pour que ça soit efficace, je pense qu'il faut que je m'adresse à vous là où vous êtes maintenant et j'ai besoin d'en savoir plus sur vous. J'ai préparé différentes choses en fait. J'ai préparé un peu un aspect plutôt historique et musical. Des fois qu'il y a des musiques que vous ne connaissiez pas, ça serait intéressant de commencer par ça. Maintenant que vous êtes un peu en phase de digestion, ça y va encore. Après, je voulais vous parler des logiciels interactifs et de leurs enjeux et d'appliquer ça au problème du traitement du son en temps réel. C'est ce que je vous propose. Donc, étant dans une école des beaux-arts, je présume que vous n'avez pas une formation de compositeur électroacoustique complet. Si vous, et qui d'autre? Vous? Une personne seulement. Donc, il y aura un peu de redite pour vous, mais c'est indispensable pour que les autres suivent. Qu'est-ce que vous avez comme parcours? Qu'est-ce que vous avez fait comme formation?
Moi, je viens plus de la musique.
De la musique? Comme vous jouez d'un instrument, tout ça?
Un instrumentiste. J'ai une année en classe d'électro-acoustique.
D'accord. Ok. Qui d'autre est plutôt musicien? Ou qui bidouille du son aussi?
On fait du son, en fait.
Ouais.
On est 5 à avoir téléphone.
D'accord.
Des pratiques très variées.
Oui, ça je mesure, oui. Oui, d'accord. Ok, bon, si... je vais essayer de garder les éléments de technique musicale, disons, les aspects solfégiques et autres, peut-être plus discrets. Si vous avez besoin que je précise mon propos, je pourrais évidemment le faire. Je vais donc vous parler d'où ça vient l'histoire du temps réel en musique et pourquoi c'est un enjeu encore aujourd'hui et pourquoi je m'excite encore beaucoup avec toutes ces petites manettes et tous les bidules. Qu'est-ce que ça apporte à la vie musicale aujourd'hui? Et comment ça peut vous inspirer? Parce que mon propos est de vous donner des points de repère de sorte que vous puissiez bricoler vers la fin de l'après-midi si on y arrive et surtout demain matin, ça sera une phase plus atelier où je vous inviterai à me faire des propositions, on discutera. Il y a une salle d'ordinateur quelque part? Comment ça se passe pour les travaux pratiques?
Pareillement, il y a des studios en bas.
Il y a des studios en bas. Est-ce qu'il y a...
Mais on peut faire une configuration.
Est-ce qu'il y a Pure Data d'installer quelque part?
Ben, sur les ordi, et puis vous avez les ordres.
Pour nos ordis?
Bon, ben, si vous avez vos ordis, vos portables, ça serait idéal. Ouais. Comme ça, on s'installe tranquillement dans une pièce, et puis je vous aide un petit peu à partir des idées qu'on voit aujourd'hui. Moi, c'est comme ça que je voyais la chose, en tout cas. Super. Donc, plutôt cours, idées, discussion esthétique cet après-midi, et plutôt travaux appliqués demain, de sorte que vous puissiez travailler par vous-même après. Et quand on va se revoir au mois de juin, ça aurait fait des... juillet, ça aurait fait des petits, tout ça, et on pourra voir comment ça a mûri chez vous. J'avais envoyé en pièce jointe, mais j'ai oublié de le tirer, un tableau.
Ouais.
Donc, je vais te le renvoyer par email ce soir.
Ouais.
Mais je vais sortir de là. Je vais juste le montrer à l'écran rapidement pour les grandes lignes. Oui.
Je pensais que tu l'as envoyé directement.
Ah non, j'ai pas pensé faire ça. Honte à moi. C'est pas grave, je vais l'ouvrir là. Et je vous l'enverrai. Vous l'aurez. C'est juste un texte de référence. J'ai pas besoin de. que vous puissiez. Je vais centrer, ça va être un peu mieux. Je vais grossir. Ok. Il ne s'agit pas d'apprendre tout seul instantanément en un coup d'œil, mais vous l'aurez comme référence. Ce tableau-là est intéressant parce qu'on parle souvent des nouvelles technologies de la musique et du son. Et j'essaie de montrer dans ce tableau-là que ça n'a pas grand-chose de nouveau, en fait. Les approches mécaniques, électriques, électromécaniques, analogiques, électroniques, analogiques et numériques ont des racines qui remontent à l'Antiquité, à vrai dire. Donc, c'est assez impropre de parler de nouvelles technologies musicales. Simplement, on peut parler de technologies musicales électriques, puis après, être plus précis, la musique amplifiée, dates clés, il y a des inventions clés qui viennent tout changer. Il y en a eu une à la fin du 19e siècle, et puis ces développements au début du 20e siècle, vont bouleverser beaucoup de choses, mais contrairement à ce que disent les vendeurs de matériel, la rupture n'est pas si grande que ça. La plupart des idées qui vont nous intéresser dans ces quelques heures de travail ensemble, on peut en chercher les racines lointaines dans l'Antiquité, au 18e siècle, au 17e siècle parfois, et au 19e et 20e siècle bien entendu. En fait, depuis qu'on a des technologies de travail pour différentes tâches, on les a appliquées à la musique et au son, tout simplement. Par exemple, le premier orgue, je vois l'orgue dans le coin là. Premier, vous savez de quand il date? Je ne l'ai pas mis dans mon tableau. En 300 après Jésus-Christ à Alexandrie. Donc ça fait longtemps qu'on bricole sur des outils sonores. Les inventeurs, les mécaniciens d'Alexandrie faisaient déjà le premier prototype d'orgue hydraulique qui a été utilisé ensuite aux jeux du cirque, l'Empire romain finissant. Ça servait de signal, c'est un machin tirette comme ça, très très bruyant. Donc, un exemple parmi d'autres pour vous dire qu'on n'a pas tant inventé de choses que ça. Ce qui précipite l'affaire, c'est le développement de l'électricité au courant du 19e siècle, l'invention du télégraphe, l'invention de la radio, l'invention du phonographe et l'invention du téléphone et du micro. C'est ça les inventions clés. À partir de là, tout ce qu'on peut appeler aujourd'hui le monde des nouvelles technologies musicales dérive de tout ça. En 1890, l'affaire était faite. Après, on a juste amélioré. On a beaucoup amélioré, mais quand même. L'autre chose importante que ce tableau-là essaie de montrer, quand vous prendrez le temps de le lire un peu en détail, c'est que les développements technologiques et les développements musicaux vont absolument de pair. À vrai dire, je fais partie des personnes qui croient que c'est d'abord l'esthétique qui change et la technologie qui y répond. Encore là, il faut un petit peu résister aux vendeurs de matériel. Dans une école des beaux-arts, je pense que vous devriez être sensible à cette idée-là. C'est l'esthétique qui guide le reste. Quand la situation des attentes esthétiques a changé, les moyens techniques pour y répondre évoluent ou sont trouvés. Quand ça devient important pour les musiciens de fixer le son sur un support pour pouvoir y retravailler, comme par hasard, il y a une invention qui est faite qui le fait. Quand ça devient important pour les compositeurs dans les années 60 de pouvoir synthétiser des sons inouïs, des sons qu'on n'a jamais entendus, parce que la musique est arrivée là dans son développement après Schoenberg, il y a quelqu'un qui a inventé un synthétiseur. Vous voyez ce que je veux dire? Les inventions répondent aux besoins des artistes. Et les artistes vont aller chercher des inventions spécifiques, susciter des créations d'inventions nouveaux ou détourner des choses qui existaient. Charles Cros, en 1880, voulait un appareil pour enregistrer la voix, une sorte de dictaphone. Il dit « Je veux que les voix aimées soient d'un bien que l'on garde à jamais. » Edison, qui est plus malin que lui, dépose le brevet d'abord et ça donne le phonographe. On ne savait pas en faisant ça que ça donnerait lieu à toute une industrie du disque, à une transformation radicale de la vie musicale qui fait qu'aujourd'hui, on écoute 90% de notre musique sous forme enregistrée. Mais l'idée esthétique au départ est venue entraîner toute une suite de développement. Dans ce tableau-là, vous verrez qu'il y a pas mal de références à des instruments de musique électrique et électromécanique. À vrai dire, pas mal de grandes questions se sont jouées entre 1906, l'invention de la lampe triode, la première composante électronique proprement dite, celle qui permet d'amplifier le son, d'amplifier le courant électrique et de faire des opérations dessus. Ce qu'on va voir tout à l'heure avec les logiciels de traitement, ce qu'on fait, c'est une version numérique de ce que faisait la lampe triode. Ça, c'est 1906, Lee de Forest qui invente ça pour pouvoir faire de la musique. Après, ça va servir à la radio, à l'informatique et à tout le monde électronique. On va inventer le son électrique, comme dit Joel Chadabi, petit à petit, étape par étape, instrument par instrument. Beaucoup d'instruments de musique, genre pseudo-instruments, comme l'orgue dans le coin, ou néo-instruments. Et ce n'est que petit à petit qu'on va prendre vraiment conscience des implications profondes de l'invention de l'enregistrement, de l'invention du micro, de l'invention de l'électricité musicale. Bon, c'est vers ça que je vais me tourner maintenant. Le tableau, vous l'utiliserez s'il vous est utile, sinon, tant pis, j'ai publié ça dans un ouvrage récemment. Bien. Alors, la première étape qui lie l'électricité et la musique, c'est l'invention des nouveaux instruments. Et ça commence autour de 1900, 1906, 1907, Lee de Forest avait développé sa lampe triode pour pouvoir faire une sorte de piano électrique. Et après, il s'est rendu compte que ça pourrait rendre service à la radio. Et l'industrie radiophonique s'est développée à partir de ça. Mais avec le même matériel, moyennant quelques idées de musiciens, de gens curieux, on peut détourner un vieux poste de radio et en faire un instrument de musique. Et ça n'a pas loupé. Tout de suite après la Première Guerre mondiale, deux inventeurs qui étaient opérateurs radio durant la guerre, deux violoncellistes diplômés de leur conservatoire respectif d'ailleurs, se sont dit « mais ces postes de radio-là, c'est des instruments de musique, il faut qu'on en fasse quelque chose. La vie musicale moderne est là. » Et ça va donner, ça va s'appeler le thérémine. Première invention inventée par Lev ou Léon Thérémine autour de 1918-1920. Dans le contexte de la Révolution russe, et ça c'est très intéressant parce que Lénine va encourager les recherches de thérémine, contrairement à ce que le régime stalinien va faire plus tard, qui était plutôt inquiet de toute invention un peu trop nouvelle. La première révolution russe a été très très créative, pensez Maïakovski en poésie, les futuristes, ce genre de choses-là. Et Thérémine a été encouragé à faire ses recherches et on l'a même amené à faire une tournée de toute l'Europe et même des États-Unis où il a séjourné longtemps pour démontrer son instrument. Et c'était un poste de radio, tout bête, vous avez déjà vu dans les films ou peut-être vous en avez vu vous-même, il y a deux boutons sur un poste de radio, un bouton qui permet de sélectionner la fréquence pour trouver la bonne chaîne de radio qu'on veut et un pour le volume. Thérémine a fait ça, simplement il a pris deux antennes et comme il était bon électronicien, il s'est dit on va contrôler ça avec les mains, sans toucher, sans tourner de bouton, juste en l'air comme ça. Une main pour le son, pour la hauteur du son et une main pour l'intensité. La plupart des gens arrivent à faire un son qui est à peu près comme ça. plus à peu près tout. Mais quelques personnes un peu plus courageuses ou amoureuses, en l'occurrence, il va faire ça. Le kitsch du morceau fait partie de l'affaire, hein. C'est pas un accident. C'est une valse de Tchaïkovski, pour violoncelle. À jouer du thérémine avec cette précision-là, il faut se lever de bonne heure, je peux vous garantir. C'est pratiquement impossible à faire. Tout le rubato romantique qu'il faut. L'interprète ici est Clara Rockmore, qui a été brièvement l'amoureuse de Thérémine. Elle est restée aux États-Unis pendant que Staline kidnappait Thérémine. Le détacher, là, tédada, faire des notes bien ciselées, c'est ça qui est pratiquement impossible à faire. Bien. Vous n'avez pas manqué de sourire à côté décalé de cette musique-là par rapport au son. Hein? Évidemment, il y a un problème, là. Mais on va le nuancer de deux manières. Premièrement, c'est quoi la musique électrique en 1920? Il n'y a aucune espèce d'habitude, d'aucune sorte. C'est à peine les disques à cette époque, c'est encore des rouleaux de cire avec une qualité sonore atroce. Donc on n'est vraiment pas habitué au son électrique encore. Et d'entendre cette voix étrange, Thérémine l'appelait l'éther vox, la voix de l'éther, la voix de l'espace, si vous voulez. C'était une expérience nouvelle et c'est comme ça que c'était présenté comme l'invention du nouvel homme russe, capable de révolutionner tout, même la musique. Mais évidemment, on ne peut pas louper non plus dans cet exemple-là qu'il y a un décalage esthétique entre la modernité du son et le conservatisme musical. Les deux ne vont pas très bien ensemble. Et par la suite des développements musicaux, on va se rendre compte que cette critique-là va se trouver de plus en plus forte. Et ça va entraîner une fuite en avant très, très extraordinaire, en fait. À chaque nouvelle génération de matériel, à chaque nouvelle génération de logiciels aussi, parce que le même phénomène joue là-dessus aussi, à chaque fois qu'on a un nouvel outil pour faire du son électrique, on fait des critiques, parce que c'est jamais à la hauteur de ce qu'on espère, et ça entraîne une série d'inventions perpétuelle, absolument foisonnante. C'est vraiment très impressionnant de voir combien de gens intelligents ont travaillé pour inventer du nouveau son. C'est extraordinaire. Prenons la même idée musicale, une sorte de poste de radio détournée. Au lieu de le faire comme ça, en l'air, prenez un petit clavier qui permet de jouer des notes précises plutôt que de jouer n'importe quoi au fini, ajouter un compositeur qui a un sens du temps et un sens de la couleur qui s'adapte bien à ça, ça nous donne la pièce de Messiaen qui est pour onde Martenot. Celle-là est pour 4 ondes Martenot. Messiaen capture quelque chose de l'éternité là-dedans. L'âge musical est bien moins grand ici. La musique est bien plus adaptée à ce que peut l'instrument, et l'instrument est meilleur aussi, il est plus varié, plus souple, capable de jouer de façon discontinue des notes bien séparées ou de glisser quand il le faut, et le timbre est plus riche, plus soigné. Sans faire un cocorico, quand on étudie un peu les nouvelles lutheries, on se rend compte que l'onde Martenot française est allée bien plus loin que le thérémine russe, ou plus exactement russo-américain. Parce que thérémine a laissé son brevet à la Société Columbia à New York, et RCA a commercialisé des thérémines avant que Robert Moog, l'inventeur du synthétiseur, le fasse depuis les années 60. Et il y a quelques autres fabricants aussi. Mais il manque deux exemples là, qui vous sont peut-être plus familiers. Les deux instruments, oui, ça vaut la peine d'aller les écouter, les chercher, excusez-moi. Mais on va aller faire ça. À cause du séjour américain, le thérémine va se répandre dans le monde anglo-saxon et être très utilisé. Je vais vous faire entendre un exemple célèbre de ça. Et dans le monde francophone, c'est l'onde Martenot qui va être intégrée. Il y a des classes d'onde Martenot dans les grands conservatoires, encore aujourd'hui, bien que l'instrument ait un peu de peine à se renouveler au niveau technologique. Le passage au numérique lui a été un peu... douloureux. Alors, le thérémine. Le thérémine ici, joué par une élève de Léon Thérémine, avec ses deux antennes, par rapport à l'onde Martenot et son clavier, ses haut-parleurs. Alors, vous connaissez, vous avez entendu la pièce de Tchaïkovski. Ça, vous connaissez sans doute moins. Non, c'est pas vrai, bien sûr, tout le monde connaît ça. Good Vibrations, la vibration californienne en question, est faite par le thérémine. On va l'entendre dans une seconde. Sauf qu'en concert, ils n'osaient pas faire ça, ils en avaient fait bricoler une autre variante plus facile à jouer. Et remarquez qu'ils ne se lancent pas non plus dans des phrasés de la main gauche trop expressifs. C'est en dehors de ses possibilités. Moins connu, au milieu de Whole Lotta Love, encore du thérémine. Tout le monde connaît ça aussi. Dans le pont. Là, il y a du thérémine qui va dans un ampli guitare électrique qui sature un peu, de l'écho et de la panoramisation en gauche-droite. Et ils font des appels entre la voix et le thérémine. Les sons graves, là, c'est du thérémine. Ça ne me déplaît pas, mais on y reviendra. C'était du thérémine. C'était du thérémine. Je l'ai pris un peu vers la fin. On peut peut-être remonter un poil plus haut. Du thérémine dans une chambre d'écho, dans de la distorsion. L'orgasme psychédélique et... si vous voulez voir ça, dans les concerts qu'on trouve facilement sur YouTube, on le voit, il se tourne, il se cache, il ne veut pas trop montrer ce que c'est, mais il disparaît dans l'ombre à ce moment-là. Il ne voulait pas vendre son affaire. Mais vous remarquerez que dans le monde de la musique pop, le thérémine est utilisé de façon assez simple. Je ne vais pas dire grossière, c'est pertinent musicalement dans les deux cas, mais si on compare ça au morceau de Messiaen ou à ce morceau-ci...
Avec la mer du Nord... Au dernier terrain vague, des vagues de dunes pour arrêter les vagues.
Petit bijou de production de 1962. Les micros avaient été perfectionnés dans les années 50. Les micros Neumann étaient parfaitement inventés à ce moment-là et on n'a pas amélioré le micro depuis. Au deuxième couplet, le long de Martineau commence.
Qui est le mien.
C'est le vent, bien sûr.
Avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mât de cocagne.
Il n'y a pas encore de synthé à cette époque, très très peu.
Décroche les nuages avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir avec le vent d'ouest. Écoutez le vouloir, le plat pays qui est le mien. Avec.
Bien. Écoutez l'ensemble du morceau si vous ne l'avez pas écouté attentivement déjà. C'est la chanson est parmi les plus belles qu'on a fait en français. Pourquoi le Martineau est meilleur? C'est parce qu'il est plus développé organologiquement parlant. J'ai deux photos en zoom. On voit que ces sons de base sont beaucoup plus diversifiés que le son unique du theremin. Et on voit le tiroir ici qui comporte la touche de pression. En variant la pression, on varie l'intensité du son d'une manière très organique, très fine. C'est très sensible à la qualité du geste. Et les bons ondistes, comme on vient d'entendre, c'est Sylvain Tallard, tirent de cet instrument-là une variété, une expressivité incroyable. Ça met le doigt sur une question avec laquelle on se bat depuis, à savoir l'expressivité avec les sons électroniques et électriques. Comment faire pour avoir des sons électriques expressifs qui sont pleinement à la hauteur de nos attentes sonores, de la qualité sonore que notre oreille demande. Et Martineau avait, dès 1928, trouvé les réponses principales. Ce qu'on voit là, c'est le modèle de 1931. Il est un petit peu meilleur. Dernière petite chose, il avait aussi pensé à la diffusion. Il s'est dit, si c'est un instrument de musique, il faut s'assurer que ça ne soit pas juste un haut-parleur froid et blanc, qui est quelque chose qui se passe dans la diffusion. Donc ça, c'est le haut-parleur ordinaire, neutre. Ça, c'est la palme avec des cordes de guitare. Il y a 12 cordes accordées sur les 12 notes de la gamme, ce qui permet de donner une résonance légère, un peu comme la pédale sostenuto sur un piano. Pas la grande pédale, mais la petite pédale. Et ça, c'est le gong. Techniquement parlant, c'est plutôt un tam-tam. Une sorte de cymbale, si vous voulez. Et le haut-parleur, il n'y a pas de haut-parleur, c'est le tam-tam qui vibre. Et ça, ça crée une réverbération qui donne un lointain très agréable et très riche en qualité sonore au son de Don Martineau. C'est vraiment un instrument formidable. Le clavier est mobile, il est monté sur ressort, ce qui fait qu'on peut vibrer. On peut glisser de façon continue ou on peut jouer discontinue. Sa seule limite, il n'est pas polyphonique. Mais est-ce qu'on reprocherait ça à une clarinette ou à un chanteur? Bon. Non, son vrai problème, c'est que c'est un instrument à lampe. Et ça a été difficile à le faire survivre avec les technologies d'aujourd'hui. L'affaire n'est pas sauvée encore. J'espère qu'on va y venir. Mais l'affaire n'est pas sauvée. Je vais rester dans cette présentation-là. Les images sont sympas. Les pianos vont s'électrifier, bien entendu. Je vous le disais tout à l'heure... Lee de Forest, c'est ça qu'il voulait faire au départ. Après lui, il y a eu plusieurs inventions mineures. Il y a Oscar Feerling, qui était un Allemand, qui travaillait en Allemagne et qui a travaillé beaucoup pour les nazis, qui a fait ce prototype de piano électrique. Feerling a fait aussi des violons électriques, des violoncelles, des contrebasses électriques, etc. Et tout ça avait été mis en avant dans les Jeux olympiques de 1936. Hélas. Donc Feerling va marquer une époque un peu sombre de l'histoire du développement des instruments de musique. C'est un pur nazi. Par contre, ses élèves, notamment Bernard, comment il s'appelle, j'ai un trou de mémoire, Bernard Meissner, allemand, mais qui va s'installer aux États-Unis rapidement, va contribuer à développer des pianos et des orgues électriques aux États-Unis. C'est lui qui va travailler avec la compagnie Wurlitzer pour faire le premier piano électrique connu ou commercialisé. Un exemple. C'est un exemple de rock progressif. Je devrais vous faire entendre le Ray Charles ici. Il faut que j'achète ce morceau, je ne l'ai pas dans la discothèque. Ça, c'est un Wurlitzer. On le trouve partout, dans la musique pop et rock, et dans le blues. Ici, du rock progressif. On le distingue de l'autre modèle de piano électrique, qui est celui de Harry Rhodes. Beaucoup plus cristallin. Beaucoup plus expressif aussi. Dans les deux cas, c'est des morceaux de métal frappés, c'est pas des cordes. Ici, c'est des sortes de diapasons. Dans le cas du Wurlitzer, c'est plutôt des lamelles. Et la plage dynamique des lamelles est moins grande. Ce qui fait que quand on joue fort sur un Wurlitzer, ça sature tout de suite. On sort du monde piano, on entre dans un monde de saturation, de distorsion légère. Ça va bien pour le blues, ça va bien pour le rock. Si vous aimez Supertramp, c'est du Wurlitzer, par exemple, tout le temps. Mais pour le jazz un peu complexe et la musique expressive, c'est plutôt le Rhodes qui va servir. À vrai dire, il a été inventé en 1948 par un gars qui ne voulait pas du tout être musicien. Il voulait faire des projets de réinsertion sociale pour les vétérans de la Deuxième Guerre mondiale. Les vétérans du Pacifique avaient en moyenne 21 ou 22 ans après la guerre. On l'oublie parce qu'on imagine les vieux papis. Mais c'était des jeunes gens, il fallait les réinsérer et il avait un programme de réinsertion en leur faisant bricoler des pianos à partir des pièces des surplus de l'armée. Et les premiers Rhodes, c'était ça, avant que Fender rejette le brevet. Et les musiciens américains vont s'emparer très vite des deux modèles. La main gauche de Ray Manzanarek, c'est une fausse basse. C'est en fait un piano Wurlitzer modifié pour sonner comme une basse. Bien. OK, ça vous connaissez. Il y a des modèles de piano électrique beaucoup moins connus. Pour les plus importants, celui-là. Adaptation un peu rock de la marche de Casse-Noisette, joué sur clavinette, un son un peu funky. Pensez à Stevie Wonder Superstition par exemple. Réglé un peu moins funky, il peut sonner davantage comme un piano. Ça, ce sont des cordes frappées. Techniquement, c'est un clavicorde électrique. Superstition, je ne l'ai pas mis là. Il faudrait que je le rajoute. On va penser à mettre des cordes à la place des choses frappées dans les pianos électriques de qualité. Et Yamaha, dans les années 70-80, va faire de très très bons modèles de pianos à queue électrique. Gabriel ici. Le son de basse est piano. On sent davantage la corde dans ces choses-là par rapport au Fender. Bon, évidemment, tout ça, c'est avant l'échantillonneur et qui a changé la donne. OK. Pour les raretés, une quand même. Les orgues électriques, je vais revenir sur l'orgue dans un instant, mais les orgues électriques des années 60 et 70 vont passer au transistor et finalement vont commencer à brouiller la frontière entre l'orgue et le piano, notamment dans ce morceau-là que je suis sûr que vous n'aviez jamais imaginé que c'était un orgue. Un orgue transformé qui sonne presque comme un clavecin. Le son du... c'est un orgue Lowry, pour être précis, assez similaire à celui là-bas. Ok. Alors l'orgue, j'aurais peut-être dû commencer par l'orgue. Le tout premier instrument électrique avant le thérémine et le long de Martineau, c'était cet engin, le dynamophone ou télharmonium. C'était une série de dynamos. Genre dynamo de bicyclette analogique, là, pas celle à pile de nos jours, mais les vieilles avec les petits trous qui tournent. Quand on fait tourner une roue en métal dans un courant magnétique, elle induit un courant électrique, parce que le magnétisme et l'électricité sont liés, ce qu'on avait découvert au début du 19e siècle. Donc, Thaddeus Cale a... C'est parti de cette idée-là. Il a fait construire un jeu de roues dont la plus grande était grande comme ça à peu près, jusqu'à la plus petite qui était grande comme ceci, et a fabriqué une sorte d'orgue électrique avec ça. Ça s'appelait le télharmonium. Et cet appareil-là est étonnant, non seulement par ses dimensions, ça occupait 3 wagons de chemin de fer pour le déplacer, ça remplissait une fois montée la pièce ici avec un bruit infernal de moteur, diesel, qui faisait tourner tout ça. Mais le plus intéressant, c'est que c'était joué par une console genre orgue. Et ensuite, il n'y avait pas de chaîne Hi-Fi, il n'y avait pas de haut-parleur d'inventé à ce moment-là. Il vendait des abonnements aux gens abonnés au téléphone. Et on pouvait s'abonner et écouter la musique par combiné téléphonique. Donc, Cale invente l'orgue électrique, la musique en ligne, les réseaux, tout ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé par ça. On pense qu'on a tout inventé, mais en fait, on n'a pas inventé grand-chose. On a amélioré, on a transformé, mais les idées sont souvent déjà anciennes. C'est une invention qui n'a pas survécu à 1911. Ça coûtait trop cher, il n'y a pas eu assez d'abonnés, et puis c'était énorme, la technologie. Avant la lampe, était beaucoup trop fastidieuse. Mais miniaturisée par les soins de Bernard Meissner, le même que tout à l'heure, ça donne l'orgue Hammond de Lawrence Hammond. Ça, vous connaissez. L'orgue Hammond a été inventé pour faire des choses comme ça. Oh. Bon. Je vais vous le faire autrement. Ça ne joue pas non plus. Ok, peu importe. C'était une invention de Bach, jouée à l'orgue, la musique parfaitement classique. Lawrence Hammond voulait faire des petits orgues pas chers pour que les congrégations religieuses du sud des États-Unis puissent avoir des orgues. Vous ne le savez peut-être pas, mais aux États-Unis, il y a 36 dénominations religieuses différentes et dans les petits patelins de 700 personnes, il peut y avoir 4 ou 5 églises différentes. Donc, ça fait peu de fidèles, ça fait des églises pas riches dans un milieu global pas riche. Donc, son idée, c'était de faire un orgue qui coûte 2 000 $, le prix d'une voiture à l'époque. L'orgue B3 était monté sur les mêmes usines que les Ford T. Il était ami avec Ford, John Ford. Et ça a été un succès musical considérable. Probablement le plus grand succès musical. Ici, un morceau des années 50 dans une interprétation des années 80, mais sur B3, et dans laquelle on entend, toute la finesse de cet instrument incroyable. des sons de percussion en main droite, des sons d'accords doux en main gauche, un pédalier qui fait la basse. Une sorte de vibrato expressif sur le clavier mélodique. Et c'est une vraie batterie à côté. La basse aux pédales. Des effets de volume à la pédale de volume. Et une légère ondulation du son par un haut-parleur spécial qui tourne. Et là, il tombe vite. La cabine Leslie, on dit en français. Des techniques de jeu qui s'éloignent du jeu de l'orgue classique. Des glissés. Plus blues. Des tirettes qui permettent de changer la sonorité de base en temps réel. Un glissé de paume. Un autre jeu. Encore un autre jeu. Etc. Quand j'étais jeune dans les années 70, l'orgue électrique, on trouvait ça méga, c'était le synthétiseur qui était important, tout ça. Mais à réécouter ça rétrospectivement, il y avait beaucoup de musique commerciale de basse qualité à l'orgue. Ce à quoi font allusion les Monty Python dans beaucoup de leur musique de film. Quand c'est joué comme ça, l'orgue, c'est un instrument considérable. Pourquoi est-ce que je vous parle de tous ces instruments électriques-là? C'est pour vous montrer comment, avec le temps, on a intégré le son électrique et nos attentes musicales se sont sophistiquées énormément au fil du temps. Pour la guitare électrique, puisque j'en suis aux questions historiques, vous savez que ça a été inventé pour faire des musiques comme ça. Country, western ou hawaïenne. On n'avait pas du tout le rock en tête à ce moment-là. Dans les années 30, la guitare électrique, en même temps que l'orgue. Ça, c'est le fameux Les Paul et sa femme. Il n'y a pas beaucoup d'amateurs en général de western. Ça, c'est du western mexicain, californien. En Angleterre, avec l'invention de la guitare Stratocaster, à la fin des années 50, on obtient un nouveau son. Les deux sons de base de la guitare électrique, le gros son gras de la Gibson et le son mince et clair de la Strato. La Strato avait le manche de vibrato qui permettait de faire des choses assez extravagantes. On va l'entendre après. Importante, beaucoup plus importante que ce que Fender imaginait au départ. Parce que le sien marchait très bien, il y avait d'autres modèles avant qui marchaient moins bien. Tout ça nous mène en ligne droite à l'apogée de la guitare électrique à la fin des années 60. J'ai pris Jimi Hendrix, mais il y en a quelques autres. Eric Clapton, Santana, le guitariste de Ten Years After, Dwayne Allman devrait être là aussi. Et évidemment Jimmy Page. Bon, ce que Hendrix et les autres vont nous montrer, Bon, tout le monde a entendu de Star Spangled Banner, joué par Hendrix au festival de Woodstock. Ce que Hendrix a montré en faisant ça, c'est que la guitare est capable d'une variété sonore incroyable, du plus chantant et vocal au plus bruiteux, explosif. L'hymne américain, si vous vous rappelez le morceau, ça commence par bruit naturellement, et puis après ça se met à crier, à pleurer, à faire des bombes, à exploser, etc. Ce qui, en plein concert, manifeste contre la guerre du Vietnam, qui a une portée esthétique importante. Ce que Hendrix a montré en faisant tout ça, c'est que la guitare, les amplis, les pédales, les effets, les boutons de toutes sortes, constituent un dispositif global, complexe, très très riche. Et à vrai dire, la guitare électrique de Jimi Hendrix est presque entièrement comparable à un synthétiseur de la même époque. Ça fait le même genre d'effet. Quelques exemples moins connus. Dans Voodoo Child, des effets de wah-wah et de traitement du son. De bruit avec wah-wah. Le wah-wah, c'est un filtre. La distorsion qui fait chanter la guitare plus longtemps. Le filtrage qui accentue les bruits. Et on disait d'Hendrix qu'il faisait chanter sa guitare, entre autres pour ces raisons-là. Grosse saturation qui permet de construire un mur de son très bruiteux. On n'est plus dans le gentil son poli de la pop, là. On est dans le gros son. Et tous les guitaristes de hard rock, de metal et de post-metal en tout genre découlent de ça exactement. Plus fin, peut-être. Hendrix a découvert les pédales d'effet comme le phasing, le flanging. Le chorus est inventé plus tard. Qui donne un effet de tremblement sur le son. Doublure sur la voix, c'est des effets de tremblement aussi du chorus. Je vous recommande, si vous ne l'avez pas fait, de regarder tous les vidéoclips sur le site de Hendrix pour voir le travail de Hendrix en studio, où vous serez convaincu, je pense, que Hendrix est un guitariste de studio très très fin, un créateur électroacoustique au plein sens du terme, avec sa guitare. Après les cours de Annette Van de Gorn demain et vendredi, ça va être intéressant de comparer les deux. Je ne crois pas qu'Annette mésestime le rock. J'ai jamais eu cette conversation-là avec elle, mais les gens de sa génération, en général, sont marqués par le rock et par le rock progressif, Pink Floyd notamment, une grosse incidence sur la musique électroacoustique. Mais dites-lui pas que j'ai dit ça. On va voir où ça, elle vous mène. C'est une femme absolument passionnante, vous verrez. La photo ici, là on n'a plus le temps, la photo ici nous montre Jimmy Page qui joue avec un archet sur sa Gibson. Il y a certains passages en concert, ça n'a pas été en disque vraiment, où il utilise l'archet comme façon novatrice de jouer de sa guitare. Pourquoi tout ça? Pourquoi mettre des pédales d'effet? Pourquoi mettre des amplis? Pourquoi distorsionner? Pourquoi inclure la guitare dans un réseau de choses plutôt que toute seule? C'est parce que le son tout nu de la guitare électrique, c'est très pauvre. En fait, il y a peu de choses dedans. Il faut vraiment utiliser des artifices pour le révéler, pour amplifier ce qui s'y cache. Sinon, si on branche une strato sur un ampli droit, comme cette chaîne-là, directement dans la console, là, par exemple, on obtient un son qui a peu d'intérêt. L'autre chose importante, c'est que l'amplification, avec tous ces effets-là, est un grand amplificateur gestuel. Si vous êtes guitariste, vous le savez, il faut retenir la guitare, sinon elle joue toute seule quand c'est réglé comme ça. L'instrument est très, très réactif. Peu de choses, et puis ça, on obtient un son dévastateur en moins de rien. Donc, c'est une énorme amplification de chaque nuance, de chaque petite délicatesse de geste, ce qui se traduit dans nos oreilles par des variations sonores qui sont tout aussi audibles. Les guitaristes des années 70 vont accentuer tout ça, et si vous avez déjà vu le pédalier d'un guitariste professionnel, vous verrez des tas de pédales comme ça, qui servent chacune à ajouter une dimension particulière à la guitare. On pourrait point par point comparer ça aux différents modules d'un synthétiseur. C'est exactement les mêmes fonctions pour les mêmes raisons. On a besoin d'un amplificateur variable, on a besoin d'un filtre variable, on a besoin de différents degrés de saturation, de distorsion, on a besoin de différents degrés pour animer la partie continue du son, chorus, flanging, phasing par exemple, etc. Et là, ce sont les guitaristes du rock progressif qui vont terminer ce travail-là. J'ai mis Genesis, mais ça aurait pu être Pink Floyd ou Frank Zappa. Et après, c'est un autre sujet. C'est plus celui-là. Les instruments électromécaniques ou électriques dont j'ai parlé jusqu'à maintenant ne sont pas tout seuls dans l'histoire du son électrique. Il y a une deuxième branche qui est la branche de la musique classique. Le terme est malheureux, je ne l'aime pas du tout, musique classique, ça ne veut rien dire. À strictement parler, la musique classique, c'est la musique du 18e siècle. Donc, c'est clairement pas de ça dont je parle. Et si on veut dire la musique savante, c'est encore pire, comme s'il n'y avait pas d'intelligence dans d'autres genres de musique. C'est stupide. Mais on n'a pas d'autre terme que celui-là, donc endurons-le. La musique donc classique, la musique savante, électroacoustique, a des racines très anciennes aussi. sans trop m'apesantir, ça naît quand, dans les années 40, après une vingtaine d'années de feuilletons radiophoniques, les créateurs musicaux se sont rendus compte que la radio était un médium vraiment spécial et que c'était radicalement différent du concert ou du théâtre. Et plus particulièrement, ils se sont rendus compte que le fait de jouer pour un micro et le fait de jouer pour être enregistré et rediffusé après, ou être diffusé en direct via le micro, puisqu'il y avait beaucoup de radio en direct jusqu'aux années 50. Ça changeait tout. Ça changeait tout parce que l'écoute du micro, et si vous avez bricolé avec des micros, vous le savez bien, l'écoute du micro, ce n'est pas une écoute naturelle, ce n'est pas une écoute normale. Le micro capte des choses qu'on entend à peine, et le micro n'entend pas des choses qui nous sont essentielles. Et jouer pour le micro, c'est changer sa perspective sur le son. D'autre part, le fait de pouvoir enregistrer les choses, ça change tout. Parce que, à partir du moment où on peut enregistrer, on peut réécouter. Et ça, c'est l'idée maîtresse de la musique électroacoustique. Je suis sûr qu'Annette va vous faire un long développement là-dessus, je ne vais pas trop insister, là, c'est sa partie. Mais le fait de pouvoir écouter, réécouter, réécouter autant qu'on veut un son change profondément notre façon de l'entendre. Parce que la première fois qu'on entend un son, on se dit, bon, c'est quelqu'un qui parle, il a des informations données. La première fois qu'on entend un son, on se dit, mais c'est quelqu'un qui parle, il a des informations à me donner. La première fois que quand on entend un son, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Après un certain nombre de répétitions, après un certain nombre de réécoutes, on arrête d'écouter le sens et on écoute autre chose. Quoi? Ça dépend du contexte, ça dépend de la façon dont on présente les sons, ça dépend du son lui-même, etc. Et c'est de tout ça dont le fondateur de la musique électroacoustique s'est rendu compte en premier, par étapes, à partir de 1944-45, c'est Pierre Schaeffer, qui s'est dit que la présence du micro et de l'enregistrement nous déplaçait complètement d'univers artistique et qu'il fallait tout remettre en cause. Alors, ses premières démonstrations musicales, il y a une pièce ancienne qui était les bruitages pour une dramatique radiophonique. Si on a un peu de temps plus tard, je pourrais peut-être vous en faire entendre des bouts. C'est La coquille à planète. Après, il y a eu la guerre. Il n'a pas pu travailler de façon continue à cause de la guerre. Et en 48, après la guerre, après qu'il ait été directeur de la radio et puis remercié par De Gaulle en l'espace de 6 mois, il s'est retrouvé dans le studio avec un peu de temps et l'envie d'explorer plus à fond cette piste-là. Ça donne les fameuses études de bruit, dont les tubes au chemin de fer, qui est incontournable. Des sons de train, bien sûr. Et pourquoi le train pour mon patapon? C'est très rythmique, un train. C'est très musical. Et voyez comment il s'y prend, ici. À force de répéter ces fragments, on n'entend pas ça comme un train qui circule dans la campagne. On entend ça comme une figure rythmique, bien entendu. Pour ce son-là et plein d'autres. Donc, Schaeffer dit, à partir du moment où on travaille à partir de sons enregistrés, on ne fait plus de musique. Jusqu'à aujourd'hui, les compositeurs électroacoustiques débattent pour savoir s'ils font de la musique ou pas. Bon, moi, je pratique les deux genres musicaux, je n'ai pas envie de couper la musique de ça, mais le débat existe. Parce que c'est un art du son qui ne se fait pas comme de la musique. Je ne suis pas d'accord avec cette position-là, personnellement. Mais il y a débat. Pourquoi il y a débat? Je vais vous montrer autrement. C'est plus complet ici. Il dit, dans la pratique musicale normale, le compositeur a une idée plutôt abstraite, plutôt esthétique. Après, il rédige une partition qui communique à des musiciens. Les musiciens jouent ça, mais on entend la pièce. On passe de l'idée abstraite à sa réalisation concrète, le concert. Il dit, quand on travaille à partir d'enregistrements, c'est juste l'inverse. On a des enregistrements concret, c'est-à-dire que physiquement, j'ai un bout de bande magnétique, j'ai un disque souple, plutôt en 48, et j'ai de la matière physique qui existe, c'est un enregistrement. Et après, je l'écoute, je le réécoute, je le réécoute, et je bascule d'une écoute causale ou anecdotique, c'est un train, à une écoute de plus en plus informée. C'est un rythme, pom, papa, tam, pam. C'est une couleur, son, son, clair, clair, son, son, clair, clair. Ou peu importe ce qu'on peut entendre dans ce fragment de son-là. À partir de cette écoute affinée-là, une écoute non causale, mais une écoute qualitative fine du son, on élabore un morceau de musique qui n'est pas naïf, qui est une construction, une fabrication, à partir des séquences brutes, qui élaborent une œuvre d'art. L'œuvre d'art finie a des propriétés esthétiques abouties. Ça, c'est d'ordre abstrait à nouveau. Donc, il dit que c'est de la musique à l'envers. Je commence par du concret et j'élabore une œuvre d'art abstraite. Pour cette raison-là, plusieurs disent que l'art électroacoustique n'est pas la musique, puisque ça ne procède pas comme la musique. Personnellement, je trouve ça exagéré. Je pense qu'on ne peut pas couper 5000 ans d'histoire de l'art du son comme ça. Il y a des différences et il y a des ressemblances entre l'art électroacoustique et l'art musical. Ça me gêne qu'on en essaye de le couper parce que c'est se priver de richesse et de trésor et de grand bonheur, tout simplement. Voilà. Mais ça existe. Tout le monde connaît l'étude au chemin de fer, c'est toujours celle-là qu'on fait jouer dans ce genre de circonstances-là. Je vais vous faire entendre la cinquième de la même suite. À mon avis, c'est la meilleure du lot, pour plein de raisons. Tout d'abord parce que Schaeffer arrivait là, c'était sa cinquième pièce, il lui restait pas beaucoup de temps, il avait une pile de disques de base, il a fait le DJ, il a enregistré le résultat sans retoucher. Et il atteint une certaine grâce là. On l'appelle parfois l'étude aux casseroles. Faites une boîte de pellicule de film. C'est la voix de Sacha Guitry. Il a trouvé ça dans une poubelle parce que la script toussait pendant l'enregistrement. Donc, les boucles, c'est inévitable. Ici, on pense des fois que ce sont les musiciens de drone ou les musiciens post-68 qui ont inventé les boucles, mais il n'en est rien. La boucle a été inventée ici. Parce que Schaeffer voulait forcer l'auditeur à écouter le son dans ses qualités et non pas dans ses causes. Et après, il a élaboré tout un système de pensée considérable pour nous aider à entendre mieux le son. Et si c'était ma fonction dans votre formation, je pourrais développer ça, mais je pense qu'Anna Dorn de Grande va le faire, donc je lui laisse ce terrain-là sans plus. à partir de là, Schaeffer va s'entourer de plein de gens, tous plus brillants les uns que les autres. Pierre-Henri va arriver assez vite dans son équipe, ils vont faire quelques pièce remarquable, notamment la symphonie pour un homme seul, qui a été composée par deux personnes, comme le titre l'indique pas, dans laquelle l'origine théâtrale est assez audible encore. Et le but de cette symphonie-là était d'élargir le répertoire des sons musicaux. Schaeffer dit, mais le monde qui nous entoure est plein de qualités esthétiques, plein de musique. Pour lui, c'était de la musique. si on veut renouveler l'art musical de nos jours, ce n'est pas en se lançant dans des musiques toujours plus abstraites et difficiles à entendre, mais au contraire, en ouvrant nos oreilles sur l'infini du vaste monde des sons et en abordant ça avec curiosité et créativité. Donc c'était ça son objectif, faire de la musique de bruit, faire de la musique du son, de tous les sons. Et le projet de la symphonie pour un homme seul, c'est de faire une musique des sons de l'homme, dans tout ce qui ça va de varié. Par exemple, des sons plus... Bon, peu importe, on n'a pas plus le temps que ça. Vous réécouterez la pièce dans son ensemble si ça vous intéresse. Une fois qu'on a dit ça, on passe souvent sous silence l'autre aspect de Schaeffer, qui est un homme d'organisation. Ce que ce tableau-là montre, c'est que ces pièces électroacoustiques sont minutieusement préparées et organisées. Pierre Schaeffer était polytechnicien et poète, donc il y a toujours les deux aspects chez lui, l'organisation et la sensibilité. Et si le temps me le permettait, je pourrais vous faire écouter L'oiseau raille, qui est une pièce très didactique, qui fait un thème et variation à partir d'un chant de petit oiseau. Mais on n'a pas le temps. À partir de Schaeffer, il y a toute une école électroacoustique qui se développe et près de 40 ans de musique de plus en plus originale et créative qui viennent de là. Il y a un problème avec cette version-là de mon PDF, je vais aller les chercher ici. La sphère, disons, parisienne et française de la musique électroacoustique va se développer très très vite à partir de ça. Dans les années 60, quelques compositeurs importants comme François Bell, Yannis Xenakis, Bernard Pamoumedjani, Anat van de Gort vont arriver au fin des années 60, début des années 70, et puis d'autres encore dont on vous parlera sûrement, vont se rajouter et faire de la musique électroacoustique, de musique qu'on appelle concrète d'abord, à cause de l'explication de tout à l'heure, et qui va devenir ensuite musique électroacoustique, je vais vous expliquer pourquoi, va se développer considérablement. Pour en finir avec cette branche-là, un petit morceau de Bernard Parmigiani, qui est décédé cet automne, qui était une des grandes figures de tout ça. Avec une meilleure technologie, le son plus intéressant. Mais c'est encore de la musique de bruit. Ça sonne comme des sons de scratch, et de fait, c'est fait presque en scratchant, mais c'est du scratch à la bande magnétique sur la tête de lecture. Je vous disais qu'on détourne les technologies, c'est un exemple parmi d'autres, de la même manière qu'un scratcheur de tournevis détourne le tournevis. Sinon, les autres sons qu'on entend, c'est du zarb, une sorte de tambour. On devrait travailler. Ce que l'école électroacoustique française a développé, c'est une façon d'écouter les sons, une gourmandise, une curiosité pour le son qui est extraordinaire, avec tout un vocabulaire descriptif, ce qu'on appelle la typomorphologie schaefferienne, qui permet d'être bien précis quand on veut parler du son et de ses qualités. Parce que vous le verrez par la suite, les mots nous manquent vite quand on veut décrire les sonorités, les timbres avec précision. Donc, il faut s'équiper de vocabulaire pour pouvoir le faire. Et ce que cette génération-là a fait, ça a été de collaborer avec Schaeffer pour inventer ce vocabulaire-là, puis surtout de mettre ça en pratique pour faire des œuvres remarquables. Les œuvres de Pierre Henry, les œuvres de François Bell, les œuvres de Bernard Parmigiani ou les œuvres de Guy Rebelle sont extraordinaires. Bien, ça c'est le coin de Paris. Mais évidemment, il y a de la musique ailleurs. En Allemagne, à Cologne, dans le milieu des musiciens instrumentaux qui fréquentaient l'école de Darmstadt, c'est-à-dire les musiciens d'avant-garde instrumentale des années 40-50, on se dit qu'après tout, nous aussi, on pourrait faire de la musique en studio, mais avec d'autres perspectives. Ces musiciens-là étaient des constructivistes, au sens russe du terme, c'est-à-dire que eux voulaient fabriquer la musique, la contrôler dans tous ses petits détails, la construire à partir de bases simples et élaborer des choses complexes à partir des éléments. Dans la musique instrumentale, ça donne la musique sérielle, dans laquelle il y a des principes d'organisation qui permettent de construire des morceaux de musique dans les moindres détails. Mais quand on donne un studio électroacoustique à un musicien sériel, il a envie de faire pareil avec le son. Ça peut sembler un peu naïf comme point de départ, mais c'est bien ce qui s'est passé. Et dans les années 50, Karl-Heinz Stockhausen, Luigi Nono, Luciano Berio, Bruno Maderna et tous les compositeurs de la génération de Darmstadt vont se retrouver en studio et essayer de faire quelque chose avec ces outils-là. Eux vont moins utiliser les techniques de filtrage et de coupage de bandes comme on faisait à Paris, vont utiliser davantage la synthèse, construire des sons à partir de ces éléments simples. Mais ça donne parfois des musiques tout à fait intéressantes. La plus aboutie d'entre elles est la deuxième étude électroacoustique de Stockhausen de 1954. Tous les moindres détails sont écrits, mais ça donne une musique qui est tout à fait intéressante quand même. Un bon équilibre entre l'idée et la réalisation. Les sons sont bizarres parce que Stockhausen ne voulait pas utiliser les principes de la résonance acoustique naturelle. Il dit c'est abstrait, c'est artificiel, je vais utiliser des proportions arbitraires. En l'occurrence, la racine 25e de 5 qui sert à tout construire.
C'est des sons de synthèse ou c'est des sons
de synthèse? Mais synthèse façon 1954. On y reviendra. En réalité, vu la technologie, la qualité de ce qu'on entend là est très marquée par les problèmes techniques de cette époque et la pièce fonctionne parce qu'elle a ce son-là. Quand on réalise à l'ordinateur les esquisses de Stockhausen, ce qui est possible, ça donne une autre pièce. Très différent, on va l'écouter tout à l'heure. Bon, une fois qu'on a fait ça, et ça c'est plusieurs mois de montage, chaque couche, dans une synthèse additive, l'idée c'est qu'on accumule des sons pour qu'on puisse créer un son complexe. Mais à cette époque, il n'y a pas de générateur d'enveloppe, il n'y a pas de clavier, il y a un oscillateur de disponible dans le studio. Donc si je veux un son qui est composé de trois fréquences, 100 Hz, 125 Hz et 354 Hz, il faut enregistrer d'abord 100 Hz sur une bande magnétique, mettre ça sur le magnétophone, faire jouer ça, ajuster l'oscillateur sur 325 Hz, enregistrer le mélange des deux sur une deuxième bande magnétique, reprendre ça. Inutile de dire que chacun de ces sons-là n'a pas plus de 5 ou 6 sons simultanés, parce qu'autrement ça devient impossible à gérer. Il a mis 6 mois pour composer une pièce qui en dure 3 minutes 15. De travail quotidien. Mais pourquoi, qu'est-ce qu'il guidait là-dedans? On peut trouver ça ridicule ou disproportionné. Qu'est-ce qu'il guidait? Il se disait, pour la première fois de l'humanité, on peut réaliser parfaitement une idée qu'on a, faire quelque chose qui n'a jamais été entendu, faire quelque chose où on contrôle chaque aspect d'une manière intelligente et musicale quand même. Stockhausen, c'est un grand compositeur, là, c'est pas un petit compositeur de placard. Le meilleur de sa génération. Et c'est ça qui le motivait. Il se disait, c'est laborieux, c'est pénible, on n'arrive pas à grand-chose, mais c'est comme ça qu'il faut faire la musique, désormais. Bon, ayant fait ça, il s'est quand même arrêté, il s'est dit, il y a un problème. Il y a un problème. Cette musique-là, elle ne va pas aussi loin qu'elle le pourrait. Et surtout, on perd une partie de la richesse sonore de ce qu'on entend quand on enregistre des sons du monde réel. Il avait un peu séjourné chez Pierre Schaeffer au début. Et malgré sa relative antipathie pour Schaeffer, il a quand même écouté ce que l'école concrète faisait. Et il s'est dit, il faut qu'on procède autrement. Et ça va le mener... Vous êtes familier avec la musique sérielle, vous avez déjà vu des tableaux comme ça, sauf qu'en général, ce sont des notes qu'on voit, do, ré, mi, fa, sol, organisées. Là, ici, ce sont les dimensions acoustiques du son que Stockhausen organise pour faire sa pièce. Mais ayant fait ça, il se dit qu'il faut élargir l'univers sonore, que l'univers sonore des sons de synthèse est trop petit. Qu'il faut intégrer des sons beaucoup plus variés. Et il a fait ce tableau-là. Et il s'est dit, il faut qu'on arrive à faire un monde de musique électroacoustique dans lequel tout est possible, du son le plus synthétique au son le plus organique, avec tous les degrés intermédiaires, pour être libre, parce qu'un compositeur doit être libre et être capable d'utiliser tout ce qu'il veut, pas juste un petit bout de ce qui est disponible pour des raisons idéologiques. Et ça donne ce qui est, à mon sens, le premier vrai chef-d'œuvre de la musique électroacoustique, Gesang der Jüngling, le chant des adolescents dans la fournaise de 1955-56. La version d'origine est pour 5 haut-parleurs diffusés autour du public. Là, j'ai une version stéréo, mais ça vous donne une idée quand même. L'idée est d'avoir tous les degrés entre la voix du petit garçon qui chante et les sons parfaitement synthétiques. Et l'enjeu poétique pour lui est très important. C'est une référence oblique aux adolescents de la Deuxième Guerre mondiale. De la Bible qui dit « Louons le Seigneur pour avoir fait le ciel et la terre, le froid, la chaleur, les étoiles, la lune, le soleil. » Une sorte de jubilation.
«
couper ça, mais le temps tourne tellement vite. Je vous invite vraiment à l'écouter. Chaque pièce que je vous fais entendre, tout ça, ça se trouve facilement sur YouTube. Allez écouter ça de manière concentrée. Vous y trouverez des trésors, vraiment. Cette pièce-là est importante parce que parmi la première, il y en avait eu une autre de Bruno Maderna un peu avant, qui allait dans le même sens. C'était parmi les premières pièces qui essayaient d'enjamber le fossé Cologne-Paris, le fossé musique enregistrée traitée versus musique synthétique, et qui disait, mais il faut faire les deux, tout simplement, et bien faire les choses. Donc, c'est de là que date l'expression musique électro-acoustique. Électro pour électronique, c'est l'école de la musique synthétique de Cologne, et acoustique pour musique enregistrée, musique à barre d'enregistrement, l'école de Paris. À partir de 1955, il n'y a presque personne qui n'a été que dans une ou l'autre des familles musicales. À partir de ce moment-là, tout le monde s'est senti un peu libéré, et je trouve que dans cette pièce-là, ça s'entend. On sent que Stockhausen joue avec ses machines, avec beaucoup plus de liberté. Il est bien moins dans une camisole de force qu'avant, et on devine ses gestes à la console, ou à l'oscillateur, aux amplificateurs, etc., qui génèrent de la matière avec une espèce de jubilation qu'il propose de sa pièce. Le texte parle d'un miracle d'enfant qui résiste à une torture. C'est dans le livre de Daniel, si vous voulez voir. Et lui a survécu à la Deuxième Guerre mondiale et dit « Merde, j'ai envie ». Il y a quelque chose de jubilatoire de cette façon-là. Le fait de s'autoriser à faire ce qu'il veut, à l'instinct, ça c'est important. Alors, finalement, Stockhausen redécouvre à sa propre manière ce que faisaient les compositeurs de Paris depuis longtemps déjà, une semi-improvisation en studio avec les machines disponibles. Simplement, à la différence des gens de Paris, il se permet des trucs parfaitement abstraits et parfaitement décidés de façon arbitraire d'avance, contrairement aux gens de Paris qui vont plutôt être très respectueux de la qualité sonore de leurs enregistrements. Ça, c'est une différence de sensibilité ici. Mais il a le même degré de liberté de travail. Il va confirmer ça par la suite, des photos de l'époque. Je suis cousin tout jeune, ça fait drôle de le voir comme ça. Ça va entraîner pour l'histoire de la musique une période de mutation, et en fait la musique des années 60 et des années 70 dans sa liberté, la musique de la période de 68 est née de cette autocritique là qu'ont fait les compositeurs à la fin des années 50, et ils ont voulu sortir des camisoles de force qui s'étaient fabriquées eux-mêmes pour pouvoir agir beaucoup plus librement. Mais ça dépasse un peu mon propos de cet après-midi. Je te croise en 67. Il a épousé le mouvement 68-art de plein fouet. Alors, ça nous amène ici. Milieu des années 60. Les compositeurs commencent à avoir envie de récupérer la main sur les machines et de disposer d'outils de création électroacoustique qui soient un peu plus flexibles, un peu plus malléables que ça. Ça, c'est très malléable, mais c'est une malléabilité spécifique aux studios d'enregistrement. Des consoles, des magnétophones à bande. Arrivé en 65-66, la plupart des outils qui nous sont familiers existent dans leur version analogique. Donc, ce qu'on peut avoir envie de faire, on le fait là. Mais ça reste quand même de la technologie de studio dont la finalité première est de faire des bons enregistrements. Pour la petite histoire, ça c'est le studio d'enregistrement de l'école, l'Université technique de Berlin, la Technische Universität. Une des grandes écoles de Tonmeister, les preneurs de son allemands, ont été formés là. Ça, c'est le studio de Cologne en version 1967. On voit que c'est un peu plus le foutoir, que c'est plus organique et un peu moins laboratoire que l'autre. Mais tout de même, c'est une ergonomie qui est celle du studio. La génération d'après a voulu améliorer l'ergonomie des choses pour deux raisons. D'abord parce que si on peut le faire, il n'y a pas de raison de disposer d'un studio difficile à manipuler. Et de fait, dans les années 60 et 70, les grands studios de création électroacoustique, c'est vrai à Cologne, c'est vrai à Paris, c'est vrai à plein d'endroits, vont beaucoup travailler sur leur ergonomie. La pièce de Bernard Parmigiani de tout à l'heure a été faite dans le studio des années 70 de Radio France, qui était une sorte de gros synthétiseur, en fait. Ici, on a le premier modèle des synthétiseurs Buchla. Buchla, le nom vous est sans doute pas familier, mais avec Robert Moog, c'était l'inventeur du synthétiseur au sens où on l'entend encore aujourd'hui. Et comme vous le voyez dans cette photo, c'est un appareil modulaire. Chaque module a une fonction spécifique. Et après, on branche tout ça ensemble pour pouvoir faire des sons. Ce qui est un peu troublant, c'est ça. Don Buchla travaillait avec des musiciens électroacoustiques expérimentaux. Il ne travaillait pas avec des musiciens de studio de variété. Donc lui, un clavier type piano ou orgue, ça ne l'intéressait pas. Il préférait ces plaques de métal-là qui étaient conductrices et qui pouvaient être sensibles jusqu'à un certain point à la qualité du toucher. Donc ça faisait une sorte de clavier sensible à une époque où les claviers d'orgue ou de synthétiseur n'étaient pas sensibles au toucher. Donc c'était plus intéressant. Mais évidemment, on ne peut pas avoir une virtuosité à la Chopin là-dessus. C'est pas fait pour ça. Ça donne une musique qui a été jouée en 1967. Il a fait un disque, face A, face B. Il s'appelle Silver Apples of the Moon. C'est très dans l'esprit spatial de cette époque. Une partie de ces choses-là sont jouées en direct sur le magnétophone. Et une partie sont séquencées par le séquenceur analogique qui est là, qui est utilisé d'une manière assez subtile. Voyez, on est dans le monde de la musique expérimentale, mais c'est au synthétiseur. Le synthétiseur a été inventé pour faire ça. Morton Subotnick était dans la sphère des compositeurs plutôt proches des sériels, hein, plus proches de Boulez et de Schokozen que de Pierre Schaeffer. Au même moment, à Rome, une bande d'étudiants aux Beaux-Arts faisait ça. Oui. Oh, c'est... Tant pis. Non, c'est dommage de ne pas l'avoir. Il y a un problème avec la version du PDF, là, il ne reconnaît pas mes sons. Désolé. Sunset aussi. Il y a des instruments du sax. Il y a des instruments construits, fabriqués avec des micros et des choses comme ça. Il y a un premier prototype d'un synthétiseur italien, le synthquête et des effets de traitement, de la réverb et des micros. Ça, c'est plus dans l'esprit libertaire et improvisation collective, caractéristique du free jazz, si vous voulez. Mais ça peut toucher. Le free jazz et la musique d'avant-garde, la musique expérimentale, sont entrecroisés souvent à cette époque. Et dans les milieux où on ne sait pas bien si les gens sont des artistes visuels ou des artistes sonores ou des musiciens, ces choses-là sont assez fréquentes à cette époque. Ça se trouve sur YouTube aussi. Le groupe s'appelle Musica Electronica Viva. Et la tête pensante derrière ça, c'est un Américain d'origine polonaise qui s'appelle Frédéric Rewski. Il y a plein de W, de J, n'importe où là-dedans, c'est difficile à écrire. R-E-W-J-E-W-S-K-I, Rewski. Musica Electronica Viva, ça c'est plus facile à mémoriser. Ce morceau-là s'appelait Spacecraft. Pourquoi c'est important dans ma discussion? C'est parce que le concert commence à jouer un rôle. Stockhausen lui-même, en 64, avait sorti son studio sur des scènes. Il tournait avec une pièce qui s'appelait Microphonie, dans laquelle 6 musiciens, 3 au micro, donc 4 au micro et 2 au mixage et au traitement, faisaient une pièce en direct devant le public. Encore là, c'est à voir sur YouTube. Microphonie. Il y a un très beau film de 1966 en noir et blanc où on voit Stockhausen qui explique la pièce et on voit l'improvisation. C'est un film français. Ça se trouve sur YouTube facilement. Je vous recommande de regarder ça. C'est aussi une pièce semi-improvisée avec une forme ouverte. On vous a déjà parlé de la théorie de la forme ouverte? Non? Rapidement dit, dans les années 60, les compositeurs, après avoir été super maniaques de tout écrire, chaque détail, se sont dit, non, il faut qu'on ouvre les fenêtres, qu'on fasse les choses autrement. Et les mêmes compositeurs qui étaient les plus pointilleux sur le détail d'écriture se sont mis à assouplir et à faire soit des improvisations dirigées, en donnant des instructions à leurs musiciens, des instructions parfois même que écrites. Il y a quelques pièces de Stockhausen comme ça. Ou de faire ce qu'on appelle des formes ouvertes, c'est-à-dire que le musicien peut choisir un parcours dans la partition. Il peut changer l'ordre des pages, ou il a tout sur une seule page, il y a des pièces de piano comme ça, où tous les fragments de la pièce sont réunis dans une page, mais il peut improviser un parcours à travers tout ça. Ça, c'est l'idée de la forme ouverte. Et la notion de forme ouverte est très importante historiquement. C'est Umberto Eco, le sémiologue, qui a fait le livre théorique qui va avec ça. C'est un livre absolument à lire pour l'ensemble des œuvres des arts de scène, visuel autant que cela. L'œuvre ouverte de Umberto Eco. L'œuvre ouverte. Opéra aperta en italien, si vous voulez lire l'original. Mais la traduction en français, c'est au seuil, je crois. Et très bien. John Cage, vous connaissez John Cage de nom au moins. John Cage avait en fait amené les compositeurs européens à réfléchir sur comment faire de la musique. Et ça a donné l'œuvre ouverte. Bien, l'histoire de que je suis en train de faire nous amène à un autre point de bifurcation très important, toujours en 67, 68, 69, qui est l'invention du synthétiseur commercial. Au départ, un peu comme l'orgue électrique d'ailleurs, l'idée de Robert Moog était de faire un synthétiseur pour les musiciens expérimentaux du genre dont je parle depuis tout à l'heure. Mais un étudiant dans une classe d'électroacoustique new-yorkaise fait ce disque-là. Switched on back. Back branché, si vous voulez. Ça, c'est vraiment la bande son des années 70. Ça jouait partout, tout le temps. Ça a été un disque multiplatine qui a changé l'histoire de la musique. Pourquoi ? Walter Carlos était un compositeur de musique électroacoustique dans la filière savante, dans une classe à l'Université de Columbia, à New York. Il est devenu connu pour faire ce disque en 69 et a changé de personnalité profondément. On le connaît maintenant sous le nom de Wendy Carlos. Wendy Carlos est connu pour avoir fait ce disque et beaucoup de musique de film, la musique de Orange Mécanique, la musique de Tron, la musique de plein de films des années 70. Il y a toute une histoire à faire. J'aimerais bien que quelqu'un fasse une thèse de doctorat sur cette personne un de ces jours. On ne sait pas trop dire il ou elle. Il faut dire elle, j'imagine, puisque c'est ce qu'elle a choisi. Mais là, il y a un point de passage absolument passionnant entre la musique savante et la musique dite savante, la musique dite populaire. Et c'est le synthétiseur qui fait ça. Ce disque-là, très bien joué. Ma copie n'est pas formidable, mais le disque est très bon. Très bien enregistré, très bien produit, bien vendu. Va faire en sorte que l'ensemble d'une génération d'amateurs de musique va se mettre à s'intéresser au synthétiseur. Et à partir de là, c'est l'industrialisation du synthétiseur qui commence. Tout le monde voulait acheter un synthétiseur, tous les musiciens un peu d'importance vont vouloir acheter un synthétiseur. Les Beatles et les grands studios vont commencer, mais les grands groupes de cette époque vont suivre très vite. Ça, c'est le synthétiseur construit pour Keith Emerson. Keith Emerson, dont vous le connaissez peut-être avec son groupe ELP, Emerson, Lake and Palmer. Il jouait avant dans un autre groupe qui s'appelait The Nice. Et leur spécialité de ces deux groupes-là était de faire des musiques à cheval entre la musique classique et le rock. Un petit exemple ici. Jouer sur ce synthé-là. Il utilisait le ruban, le son glisse, parce qu'il y a un ruban. Et il se promenait avec un long fil dans la salle, un peu à la manière d'un guitariste qui fait son solo. C'est aussi Emerson qui invente le solo de synthétiseur. Dans le contexte rock, bien sûr. Ce disque-là est sur un disque qui s'appelle « Les tableaux d'une exposition »,« Pictures at an Exhibition », dans lequel le groupe fait une orchestration rock des fameux tableaux d'une exposition de Moussorgsky, que vous connaissez peut-être mieux dans la version de Ravel. Et Keith Emerson se déplaçait avec ce mastodonte, qui est large comme deux fois la table ici et qui fait 2,50 m de haut. Ce qui était absolument une gageure, faire des tournées de rock avec un engin comme ça qui n'était pas prévu pour ça, c'était extrêmement difficile parce que les composantes électroniques de cette époque sont pas encore super fiables, l'appareil chauffait, quand il chauffait les oscillateurs se désaccordaient, tout se déréglait, ça devenait très très difficile à jouer en concert. Si vous regardez les clips sur YouTube des tableaux d'une exposition, vous verrez justement que le synthétisme m'a faussé horriblement à un moment à cause de ces problèmes-là. D'autre part, c'était des machines qui n'étaient pas... Il n'y avait pas de preset là-dessus, il n'y avait pas de pré-réglage. Donc, il fallait manuellement faire chaque son. Et pour faire des changements rapides d'un morceau à l'autre, il fallait programmer vite tout en jouant de l'autre main. C'est pour cette époque qu'il avait la main sur un orgue et la main sur le panneau de contrôle de l'autre et puis il changeait. C'est l'époque où les claviéristes étaient un peu des pieuvres, vous voyez. Mais tout de même, l'habitude d'avoir ce son synthétique-là dans un contexte rock, puis pop rock, et puis différentes musiques aussi, jazz aussi, le jazz rock naît au même moment, va faire que le clavier standard va se répandre. Au départ, il n'y avait pas vraiment de clavier dans les synthés. Mais de nos jours, quand on dit synthétiseur, on ne conçoit pas un synthé sans clavier. C'est Keith Emerson qui est un des principaux responsables de ça. L'autre chose que ça va entraîner, c'est que les exigences de tournée des compositeurs, des groupes de rock, vont demander des machines beaucoup plus faciles à transporter, moins lourdes, plus fiables, plus simples à utiliser aussi, et ça va donner la naissance non seulement du mini-Moog, mais des petits synthétiseurs portatifs. Et ces petits synthétiseurs portatifs-là sont bien moins programmables que les gros analogiques, que les gros modulaires, mais ont l'avantage de se programmer vite. La mode ces dernières années d'avoir des différents appareils sur scène pour les DJ ou les musiciens électro est un dérivé, une descendance directe du mini-Moog qui est là. Et c'est facile de jouer un solo de synthétiseur ou une basse. Pensez à Herbie Hancock Chameleon, par exemple. Pom, 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 pum, pom, pum, pom, pom, pom. Ça, c'est jouer au mini-Moog. Et de programmer le son de l'autre main. Le fait que ça soit monophonique libère une main. Et ça permet d'être utilisé en temps réel. Les autres compagnies de synthétiseurs vont naître au même moment. Et... beaucoup de gens qui ont été marqués par ça. Ça, c'est joué sur le petit modèle portable de EMS. Il s'appelle le VCS3 ou le 5-6 selon la variante. Et ça, c'est le gros modèle. Le studio. Pink Floyd, bien sûr. Qui pratique une musique électroacoustique à base d'enregistrement de son synthétique et de guitare électrique. C'est du blues psychédélique électroacoustique. Les boucles schefferiennes rejoignent le côté méditatif des fumeurs de Marie. Remarquez au passage que le son de la batterie est traité lui aussi. Bien. Dark Side of the Moon est à écouter absolument, bien entendu. La musique est forte. Oui, ben ça c'est la blague. Oui, c'est la blague, c'est parce que synth, c'est synth, le jeu de mots là. On fait ce qu'on peut pour la pub. Mais c'est très lié, hein. Pink Floyd était très lié à une agence de communication graphique, Hypnosis, où le designer qui faisait leur pochette d'album était un grand designer graphique de cette époque-là. Donc il y a toujours eu un côté très à la mode dans certains groupes de rock anglais notamment. Bon, ça c'est le panneau de contrôle du fameux Synthi VCS3. On en trouve une version gratuite sur Internet maintenant. C'est Pierre Coupry qui a fait ça, à base de Max. Si vous voulez jouer avec ça, téléchargez-le. Ça va tout à fait dans le sens de ce que je vous propose aujourd'hui et demain. Donc, il s'appelle le synthé. Le synthé. Ah, peut-être. Il n'y a pas de E. J'ai toujours écrit avec E, mais il ne me l'a jamais fait remarquer.
Il est écrit, si on regarde en haut à gauche, développement Pierre Coucou.
En effet, bon, ben, je vais corriger ça tout de suite.
Oh,
non, mais. C'est rien de tel que d'agir. Quand c'est le temps. Après, je vais oublier. Merci. Il y a beaucoup d'images dans ce PowerPoint-là. Il est interminable à mémoriser. C'est mon PowerPoint principal pour le cours d'électroacoustique, d'histoire de l'électroacoustique que je donne. Je vous en fais un condensé, là. Bon, cette pochette-là qui est intéressante aussi, je ne sais pas si on la voit assez bien. C'est le disque de Pink Floyd, Uma Guma, dans lequel on voit bien leur matériel de tournée et la volonté d'être hybride entre le savant et le populaire de Pink Floyd dans ces années-là. Ça, c'est une photo qui doit dater fin 60, début 70, à cette époque-là. Il n'y a pas encore beaucoup de synthétiseurs, c'est surtout des pianos électriques et des orgues à ce moment-là. Et le concert à Pompéi de 72 est aussi absolument intéressant. Ce qu'on sait moins, c'est que l'aspect travail de studio et travail électroacoustique est tout de même considérable chez Pink Floyd à cette époque. Et Pink Floyd, parmi les premiers, se rend compte du pouvoir du travail sur le son, après les Beatles en tout cas, mais aussi le travail sur les boucles. La notion de groove du titre ici, Seven Species of Furry Animal Gathered Together in a Cave and Grooving with a Pict, une des premières boucles dansantes de musique électroacoustique. Sur Uma Guma, l'album quadruple. Bien. J'ai presque fini ce que je veux faire avec ces exemples historiques-là. Les groupes de rock progressif, je vous le disais tout à l'heure, vont accélérer le processus. Et ça, c'est la station du claviériste d'un groupe un peu moins connu qui s'appelle Gentle Giant, mais qui était de niveau musical au moins aussi développé, à mon avis plus, que Genesis et Yes. Et on voit le claviériste entouré d'un orgue B3, d'un piano Wurlitzer, d'un mélotron, d'un synthétiseur Minimoog et d'un magnétophone à bande en dessous, on ne le voit pas. Ce qui lui permettait de faire des orchestrations assez sophistiquées, par exemple celle-là. Un mélange de musique ancienne, de son moderne, de rock et de musique classique. Une danse écossaise. Pour Genesis, le dispositif de 72-73, ça correspond à leurs trois premiers disques studio. On peut trouver ça sur YouTube si vous voulez les voir jouer. C'est très intéressant. Ce morceau-là, en particulier, avait fait date. Un orgue, un mélotron qui est une sorte d'échantillonneur avant la lettre. Et bientôt, guitare, basse et batterie. Et Peter Gabriel déguisé en extraterrestre. musique harmoniquement assez recherchée. L'harmonie plutôt romantique que jazz. Chose de plus actif. Orgue, clavinette et guitare en tapping avant Van Halen. Phil Collins de la batterie. Quel est l'intérêt de tout ça? C'est qu'avec ces instruments électriques, guitare électrique, basse électrique, orgue électrique ou électronique, synthétiseur et clavier divers, les groupes de rock de cette époque, qui sont un peu plus ambitieux que les auteurs de chansonnettes, développent un gros son symphonique, tout en étant jouable sur scène en direct. Et là, c'est là où je vais arrêter avec l'aspect historique et je vais me diriger vers mon vrai sujet d'aujourd'hui, c'est que j'ai essayé de vous montrer depuis le début de tout ça que la musique électroacoustique est une musique qui se joue sur scène ou qui se joue en direct et qui a tous les moyens jusqu'en 1975-80 pour être faite devant le public ou pour être faite en temps réel. En 1980, jusqu'en 1985, c'est la phase de numérisation, le passage au numérique. Les premiers logiciels, les premiers synthétiseurs numériques commerciaux émergent en 83-84. Et pendant un temps, on a perdu beaucoup de capacité de faire les choses en direct sur scène avec l'électroacoustique. Ça nous a amené à une bonne dizaine d'années de musique synthétique ou électroacoustique, essentiellement faite en studio. Et puis, depuis les années 2000, essentiellement, 90, ça a commencé, on a de nouveau retrouvé des possibilités de temps réel grâce aux logiciels dont je vais vous parler maintenant, qui nous permettent de retrouver les capacités d'interactivité en temps réel, tout en conservant la largeur sonore, l'ouverture sonore de la musique électroacoustique et la précision qu'on peut attendre du numérique. Donc on se trouve aujourd'hui dans une configuration où de nouveau l'interactivité gestuelle, soit en studio pour préparer son travail, soit sur scène devant du public, est de nouveau possible. Et c'est absolument passionnant, ça fait une quinzaine d'années maintenant que ces choses-là évoluent très très vite, tant dans la sphère de la musique électroacoustique, disons savante, que dans le monde des musiques électro, qui touche un public plus vaste, ou même les DJ maintenant utilisent ces technologies-là pour faire du mixage en temps réel, etc. La construction en temps réel. Donc il m'a semblé intéressant, dans le contexte de votre formation, d'aborder ce point-là. Est-ce que vous voulez une petite pause avant qu'on change ce sujet-là?